Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. 1879, à la Société d'anthropologie de Paris. Le fondateur de cette éminente institution scientifique reçoit un trophée inestimable, précieusement conservé dans du formol. Il s'agit de la tête du grand chef Ataï, tué alors qu'il menait l'insurrection Kanak contre la colonisation française en Nouvelle-Calédonie. L'administration coloniale vient enfin d'avoir la tête de ce dangereux rebelle, à la peau tout à fait noire et aux cheveux complètement laineux. Son crâne trônera ensuite pendant des décennies dans les collections du Musée de l'Homme. Les Kanaks n'auront alors de cesse de se battre pour que leur soit finalement restitué en 2014 le crâne de leur grand chef Ataï, devenu en Nouvelle-Calédonie le symbole du nationalisme kanak. Mais ils doivent encore se battre pour que leur terre leur soit aussi restituée et que s'achève enfin la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. D'ici 2018, il faudra choisir l'indépendance ou le maintien de la souveraineté française sur l'île. En attendant le résultat de ce référendum, Joël Dauphiné, historien, revient pour nous sur la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, que Victor Schœlcher qualifiait de vol à main armée.
La nature a prodigué ses dons à ce pays. Il est bien arrosé et boisé. Le climat est remarquable pour sa beauté et sa salubrité. Le pays abonde en cocotiers et autres plantations employées par les indigènes à leur nourriture. Les orangers y réussissent fort bien. On y trouve aussi des arbres à pin et des papayers. Le massif du Mont d'Or est arrosé par plusieurs cours d'eau qui donnent naissance à d'immenses plaines marécageuses recouvertes de roseaux. Son aspect est magnifique lorsqu'il reçoit les rayons du soleil couchant. Les nombreuses eaux qui en découlent l'ont toujours fait estimer des indigènes qui peuvent y cultiver avec succès les taros, les cannes à sucre, les bananiers.
Depuis toujours, les Kanaks, au moins depuis 4000 ans, cette date présumée de leur arrivée sur le territoire, les Kanaks sont un peuple d'horticulteurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas tellement tournés vers la mer. Ils sont un peuple d'horticulteurs dont les travaux hydroïques en particulier ont toujours fait l'admiration des missionnaires, des géographes et même des simples habitants européens qui sont venus et qui étaient impressionnés par les cultures en étage, par des canalisations qui étaient assez sophistiquées. Donc ils sont, comme tous les paysans, très attachés à leur terre. Alors les premiers contacts, ce sont essentiellement des baleiniers qui stationnaient dans les environs. Et puis très vite des missionnaires aussi qui sont arrivés à partir des années 1840. D'abord aux loyautés, des protestants, et puis très vite aussi des catholiques avec la mission mariste qui a débarqué dans le nord de la Grande Terre, du côté de Balade et de Pueblo, exactement en 1843, c'est-à-dire 10 ans avant la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Et bien évidemment, ils se sont heurtés à des difficultés importantes, ils ont subi des échecs non négligeables, ils ont dû évacuer à plusieurs reprises les lieux où ils s'étaient installés, parce que bien évidemment, ils ont été considérés comme des intrus qui remettaient en cause les fondements de la société Kanak. Et ça n'a pas plu à la plupart des chefs qui voyaient d'un très mauvais œil l'arrivée de ces missionnaires.
La tribu des Pueblo est connue par les révérends pères qui y ont baptisé plus de la moitié de la tribu. Le second chef, Hippolyte, qui a sur toute la tribu une grande influence, est catholique zélé. La position particulière de cette tribu lui a fait conserver sa neutralité. Plusieurs Indiens nous ont servi de guide ou d'interprète dans les premières hostilités. La tribu Gamba, elle, a pour chef Quindo. Toujours, il fut opposé à notre établissement. Ses prophéties annonçaient la conquête prochaine de l'île, contre laquelle il invitait tous les peuples du Nord à s'opposer avec acharnement. La nuit était belle, mais les hautes montagnes qui ferment la vallée rendaient l'obscurité profonde. Les établissements des révérends pères maristes furent incendiés. Ils se réfugièrent dans leur église, mais les indigènes y mirent le feu. L'incendie immense éclaira la voûte nuageuse du ciel. Les chants de guerre arrivaient jusqu'à nous comme pour annoncer la mort de prisonniers destinés au souper de chefs victorieux.
Dès le départ, l'image du Kanak a été mauvaise. On les a considérés dans un premier temps comme de vrais sauvages. Et cela pendant des décennies. D'abord, on a beaucoup volontiers grossi l'anthropophagie pour inférioriser le Kanak. Et donc, c'est vraiment très difficile de savoir, nous, Européens, ce que le Kanak pouvait ressentir, s'il avait de l'appétit pour la viande humaine. Je ne suis pas sûr du tout, parce que on ne mangeait que, finalement, très peu de personnes. Les combats étaient peu meurtriers. Quand il y avait un mort ou deux morts, on considérait que le sang avait suffisamment coulé et chacun repartait avec ses blessés.
Autant qu'on peut juger l'âge sur la figure d'un sauvage, le chef Kwindo devait avoir entre 35 et 40 ans. Il avait les cheveux crépus et longs qu'il portait relevés sur la tête et enveloppés en forme cylindrique dans une pièce d'étoffe, habituellement noire ou bleue, rouge quand il était en grande toilette. Son teint était très foncé. Ses yeux, injectés de sang, exprimaient la cruauté, la duplicité du tigre. Et sa bouche, déformée par une cicatrice, grimaçait un sourire faux. Fourbe, cruel, vindicatif, lâche et orgueilleux, maître absolu de la vie et des propriétés de ses sujets, Kwindo faisait trembler tous les indigènes au plus léger pli de son front.
Alors depuis le milieu du 19e siècle, on était persuadé que les races étaient fortement inégalitaires. Il y avait des races supérieures et des races inférieures. Et les races supérieures étaient destinées à l'emporter sur les races inférieures. Et donc, tout naturellement, on en déduisait que la race Kanak avait vocation à disparaître au contact des races supérieures. Donc ça, c'était l'idée qui était une idée non seulement largement répandue, mais qui faisait l'unanimité. Il y a eu une véritable course au crâne. Ça signifiait qu'on essayait de se procurer par tous les moyens des crânes de Kanak pour pouvoir éventuellement les transporter à Paris, où là, la Société d'anthropologie de Paris pouvait mener un certain nombre d'études qui, bien évidemment, en choisissant les différents angles d'attaque, arriver à prouver assez facilement que les Kanaks étaient de vrais sauvages, quasiment intermédiaires entre l'animalité et l'humanité, peut-être pour quelques-uns un chaînon manquant entre le grand singe et l'homme civilisé. Et elle est restée mauvaise, cette image du Kanak, au moins jusqu'en 1930-1935, au minimum, hein, c'est-à-dire pendant quasiment un siècle.
Sombres collines, vos vallons ne retentiront plus des rudes accents des danses de guerre de vos enfants. Leurs chants ne se mêleront plus aux doux murmures du ruisseau. La jeune mère n'y viendra plus au réveil baigner son nouveau-né. Encore quelques années et une main dévastatrice aura sapé vos verts ombrages. Alors qu'un essaim de blanches jeunes filles aura remplacé vos noirs crépus, des étrangers fouleront d'un pied indifférent votre verdure d'or.
La prise de possession s'est déroulée en 1853. 1853, c'est un an après la proclamation du Second Empire. Napoléon III a voulu peut-être inaugurer son règne par une prise de décision importante. On faut remettre aussi cette prise de possession dans le contexte d'une rivalité franco-anglaise dans le domaine colonial qui était relativement importante. À cette époque, la France avait été devancée pour la prise de possession de la Nouvelle-Zélande de quelques semaines seulement. Et on peut imaginer le dépit de l'administration française d'avoir essayé ainsi doubler au dernier moment. Bon, il y a aussi sans doute la demande de la marine d'avoir un certain nombre de points d'appui pour tout simplement le ravitaillement en charbon des bateaux qui, à cette époque-là, sillonnaient les mers et spécialement le Pacifique Sud-Ouest. On peut encore imaginer qu'il y avait d'autres personnes au sein du ministère qui ont dû faire miroiter aux yeux de Napoléon III la possibilité d'installer un bagne, à l'exemple de ce que les Australiens avaient fait quelques dizaines d'années plus tôt. Voilà, c'est l'ensemble de tout cela qui a fait que Napoléon III a pris la décision d'installer la France en Nouvelle-Calédonie et de planter le drapeau. Mais le temps qu'on prenne vraiment possession militairement de la Nouvelle-Calédonie, ce temps, il faut le compter en années, et parfois même en dizaines d'années, parce qu'on occupait le nord-est, enfin un point ou deux points du nord-est, et puis l'île des Pins. Quelques mois plus tard, un nouvel officier de marine est allé reconnaître la région de la baie de Nouméa, qu'il a appelée Port de France. Et puis donc voilà, donc il y avait le nord-est, il y avait le sud-ouest, et puis quelques points isolés par-ci par-là. Mais la prise de possession était vraiment très ténue, avec toujours des militaires en très très petit nombre. Pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années, la garnison ou les différentes garnisons n'ont pas dépassé 2 à 300 hommes, c'est-à-dire des chiffres tout à fait dérisoires.
Quatre passes permettent d'entrer dans la grande baie de Morari, dont l'enfoncement le plus considérable est la rade de Port-de-France, formée par la Grande Terre et l'île Nou à l'ouest. En arrivant de l'île de Tahiti, on relève le pic de l'île des Pins. On laisse à gauche la longue ligne de récifs qui borde la Nouvelle-Calédonie et forme autour d'elle une ceinture qui rend très dangereux l'atterrissage sur ses côtes. La caravane mouillait à Port-de-France le 3 octobre 1856 à 10h du matin, après une longue et fatigante traversée de plus de 7 mois, et quelque désolé que fût l'aspect de la côte inhospitalière que nous allions habiter, la plupart d'entre nous la saluèrent comme une nouvelle patrie. La 33e compagnie d'infanterie occupait le pays depuis quelques mois. Les établissements militaires se trouvaient groupés sous la protection du fort Constantine. Parmi les établissements civils, on trouvait un bazar, un hôtel décoré du titre pompeux d'Hôtel de France, une horlogerie et une boulangerie inhabitée. Au-dessus des cases en paille, le pavillon français flottait.
Alors, la Nouvelle-Calédonie ne paraît pas attrayante au premier abord, parce que d'abord, elle est très éloignée de la métropole, c'est-à-dire nous sommes en Nouvelle-Calédonie aux antipodes de la France. Et donc, ça signifie 4, 5, voire 6 mois de mer pour atteindre ses côtes, ce qui est considérable. Donc l'éloignement est d'abord très très important. Et puis aussi, l'idée que l'on s'en faisait n'était pas toujours très positive. Certes, on lui reconnaissait un climat salubre, où les Européens pouvaient éventuellement vivre convenablement. Certes, on la croyait fertile, parce qu'on était surtout abusé par la luxuriance de la végétation. Mais on redoutait sérieusement les habitants, parce que les actes d'anthropophagie qui étaient bien réels. Je me souviens de douzaines de soldats qui avaient débarqué au début de 1850 et qui avaient été attaqués et tous tués et mangés. Ça avait quand même fortement inquiété non seulement l'administration centrale, mais aussi les éventuels candidats à la colonisation. C'était surtout dans les années 1870 qu'on voit apparaître un certain nombre de colons libres qui viennent de métropole, parce qu'on avait fait de la publicité. On voit même quelques Alsaciens lorrains qui avaient choisi la France. Beaucoup sont allés en Algérie, mais il y en a eu aussi quelques-uns qui sont venus jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Alors, tous les ans, il y avait quelques dizaines, une ou deux centaines, mais guère plus, hein, de personnes qui, grâce à une publicité plus ou moins honnête, il faut le reconnaître, eh bien, venaient tenter leur chance en Nouvelle-Calédonie. Certains, quelques-uns s'y installaient, réussissaient, mais beaucoup d'autres, la majorité, échouaient, hein, parce que souvent ces colons étaient isolés dans un environnement qui ne leur était pas favorable. Ils ne connaissaient pas le climat, la qualité des sols, et assez rapidement, ils échouaient. Quelques-uns n'ont pas survécu, la plupart ont végété, et quelques-uns aussi, une poignée, ont finalement réussi à fixer une population.
En jetant un coup d'œil sur le croquis du pays, nous voyons la colonie de Port-de-France établie sur une langue de terre aride, sans eau, entourée par des tribus indigènes n'attendant qu'une occasion favorable pour se jeter sur elle. Les naturels ont toujours montré des dispositions hostiles à notre endroit. Ils avaient sur nos troupes l'avantage de connaître parfaitement le pays, de pouvoir se porter rapidement d'un point à un autre et de séjourner près de notre village sans qu'il soit possible de les poursuivre dans les fourrés qui leur servaient de refuge. Pour armes, ils avaient des haches, des frondes, des javelines et des fusils. Nous avions à leur opposer la supériorité morale, la discipline, nos armes et enfin notre isolement dans ce pays lointain et sans ressources qui donnait le courage du désespoir. Ne valait-il pas mieux mourir avec gloire et honneur pour soi-même et la France que vivre à la merci de pareils gens ?
Prendre possession, c'est, on n'a pas demandé leur avis véritablement aux chefs indigènes, hein, bien évidemment. Hein, ça, je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris, ils n'ont pas vraiment pris conscience de ce qui se passait. Hein. Alors bon, ici, il arrivait assez fréquemment que l'un d'entre eux se révolte, un chef, et que bien sûr, il groupe autour de lui un certain nombre de ses sujets qui, à ce moment-là, passaient aux actes, ce qui engendrait bien évidemment des tragédies. Et donc, toute la période 1853-1870 est ponctuée de petites tragédies, mais qui, mises bout à bout, finissent par montrer que l'arrivée des Européens ne réjouissait pas. Mais alors, pas du tout le monde kanak, parce que très vite, les kanaks ont compris que c'était leur terre qui était visée par la colonisation en général. Bon, ben, ils avaient devant eux une centaine d'hommes qui étaient armés. La disproportion des forces était telle que les Kanaks comprenaient très vite qu'ils ne pouvaient pas s'opposer directement à la présence militaire française. Et donc c'était une guerre d'escarmouches sporadiques.
Pendant 8 mois, le chef Quindo essaya de détruire la colonie du Mont d'Or, la Mission et Port-de-France. Chaque jour, plusieurs habitations étaient incendiées, sans qu'il fût possible de saisir les maraudeurs que la nuit favorisait. On refusait de croire à un massacre général. Mais tous ceux qui débarquèrent à Port-de-France purent juger de l'acharnement qu'avaient mis les Noirs à la destruction de cette colonie naissante dont la réussite était l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Bérard gisait nu sur le sable de la grève. Son corps sillonné de coups de hache avait subi les plus honteuses mutilations. Sur la falaise, on retrouva 8 cadavres, parmi lesquels on reconnut M. Majastre. Leurs pieds à demi brûlés reposaient dans les cendres de la case qu'ils avaient si bravement défendue. Cette tragique affaire porta un coup terrible au peu de colonisation tentée jusqu'alors. Tous les colons, que des intérêts directs ne retenaient pas, partirent pour Sydney à la première occasion. La colonie était réduite à ses dernières extrémités. Plus de colons, plus d'avenir.
La colonisation n'a jamais été massive, à l'inverse de ce qui s'est passé en Australie, par exemple. Puis il y avait d'autres colonies qui étaient plus proches, plus intéressantes, plus attrayantes. Donc la Calédonie ne faisait pas rêver. Pour beaucoup de petits futurs colons, la Calédonie, c'était la terre du bagne et c'était la terre des mangeurs d'hommes, des Kanaks. Bien évidemment, une réputation qui en faisait reculer beaucoup, beaucoup. Et donc, assez rapidement, l'administration s'est aperçue que la colonisation libre ne donnerait pas beaucoup de résultats. Et bien évidemment, on s'est dit, mais pourquoi ne pas remplacer les colons libres par des colons pénaux, c'est-à-dire envoyer des bagnards. Et très rapidement, on s'est dit que finalement, c'était le moyen le plus judicieux d'utiliser la Nouvelle-Calédonie. Et on s'est dit que l'administration pénitentiaire pourrait avantageusement développer la colonisation. Avec cette idée que on pourrait mener de bien et la colonisation libre et la colonisation pénale, avec à terme une absorption de la colonisation pénale par la colonisation libre. Voilà en gros l'idée que l'on pouvait se faire à Paris quant à l'utilisation de la Nouvelle-Calédonie. On savait que la Calédonie avait vocation à devenir une colonie de peuplement. De peuplement blanc, bien évidemment. Et donc, on a hésité entre colonisation libre et colonisation pénale pour finalement trancher à la fin du siècle au profit ou en faveur de la colonisation libre. Alors, pour gagner du terrain, parce qu'il faut bien sûr des terres, et si possible des terres fertiles, et les terres fertiles ne sont pas très abondantes en Nouvelle-Calédonie. Et manque de chance pour la colonisation, la plupart des terres fertiles, sinon la totalité, sont mises en valeur par les Kanaks. Et donc, bien évidemment, on se heurte assez rapidement à la présence des Kanaks, et donc comment faire pour faire en sorte que la colonisation puisse réussir. Alors, on commence par ponctuellement demander aux différents chefs, par des moyens, des pressions plus ou moins importantes, de céder du terrain. Mais il y a d'autres moyens. On s'aperçoit que les besoins, les appétits de la colonisation libre et surtout de la colonisation pénale sont de plus en plus importants. Et donc, pour satisfaire à ces appétits, on imagine des réductions d'indigènes. Comme on a fait aussi des réserves en Amérique du Nord, c'est le même procédé. Et ces réductions permettraient donc de grouper les indigènes entre eux. Et bien évidemment, en les groupant, on pouvait plus facilement prendre les terres de ceux qui n'étaient plus dans leur habitat habituel ou traditionnel. Et en 1893-94, quand un nouveau gouverneur est arrivé, on pensait que les esprits étaient plus disponibles. Et donc on a décidé, ou du moins l'administration a décidé, ce qu'on appelle le grand cantonnement, c'est-à-dire la mise en réserve de toutes les terres Kanak de la Grande Terre. Ces réserves se trouvent essentiellement dans les zones montagneuses, et qui sont peu fertiles, ou marécageuses éventuellement, et les Kanak se sont retrouvés avec un espace limité, non seulement en quantité, puisqu'ils sont passés de près de 1 500 000 hectares à seulement 300 000 hectares, et puis en 1902, à la fin du grand cantonnement, à 120 000 hectares seulement. Donc ils ont perdu en quantité, mais ils ont aussi perdu en qualité, puisque les terres qui leur ont été réservées, c'était des terres le plus souvent de très mauvaise qualité, quasiment impropres à toute culture.
Le temps était magnifique, le soleil brûlant. La colonne était épuisée par 3 jours de marche forcée dans des sentiers à peine tracés, tantôt au milieu d'herbes tranchantes atteignant le visage, tantôt dans les bois épais sillonnés de ravins à sec, de lianes, de racines à fleurs de terre. La dernière journée, surtout, fut la plus pénible. Le dernier chaînon fut gravi par les soldats avec les mains, plus qu'avec les jambes, qui refusaient le service. Mais quand ils découvrirent enfin le magnifique village entouré de palissades, les cônes de ses cases circulaires surmontées de coquillages et de grossières sculptures en bois appelées tabous, le courage revint alors à ces malheureux. Ils rassemblèrent tout ce qui leur restait de force pour descendre sur le village. Fiers de leurs premiers avantages, nos ennemis exécutèrent sous nos yeux une danse de guerre. Et dès qu'ils crurent les troupes à portée, ils firent pleuvoir sur elles des javelines et des pierres en continuant leurs gestes et leurs cris. À 300 mètres, le feu fut ouvert par toute la ligne de tirailleurs. On aperçut ce mouvement d'hésitation qui précède une déroute. Puis, les Indiens se débandèrent dans toutes les directions. On arriva sur le plateau au moment où les derniers l'abandonnaient. Leur fuite fut protégée par les nombreux niaoulis qui couvraient les versants de la colline. La troupe fut ensuite employée à mettre le feu au village et à achever la destruction des plantations. À midi, nous descendîmes des montagnes pour déjeuner sous les figuiers qui ombrageaient la rivière. Nous pûmes alors visiter à loisir cette partie du pays arrosée de nombreux cours d'eau et d'une fertilité remarquable. Dès lors, nous songions à un retour prochain des quelques colons capables d'exploiter ce beau pays. Il existe un sentier qui, suivant les grands bois de Mbuai, laisse sur la droite les restes du village des Yahweh et rejoint la rivière dont les sources arrosent divers contreforts, cultivés à la mode calédonienne et plantés de taro, de canne, de bananiers. C'est le sentier des montagnes. Il mène au Mamelon, sur le sommet duquel s'élevait autrefois le village de la puissante tribu des Mbuai. Karambeu était le chef de cette tribu. Où est-elle aujourd'hui? Le plus grand silence règne autour de nous. Pas un feu, pas un cri. Seul le chant des oiseaux saluant l'aurore, l'aboiement de l'orfraie, le babillage des corbeaux rompent cette solitude.
Merci à Joël Dauphiné, historien spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et auteur de deux ouvrages édités par l'Harmattan, « Les débuts d'une colonisation laborieuse » et « Les spoliations foncières en Nouvelle-Calédonie » parus respectivement en 1989 et 1995. Merci également à Mohamed Rouabi pour son interprétation du sous-lieutenant d'infanterie de marine Victor de Malherbe, dont le témoignage se trouve en annexe du livre de Joël Dauphiné, « Les débuts d'une colonisation laborieuse ». Les Hommes aux semelles de vent est une émission d'Aude Émilie Judaïque, préparée par Julie Briand et réalisée par Charlotte Roux et Anne-Laure Chanel. Aujourd'hui à la technique, il y avait Alain Joubert et Philippe Bredin. Demain, les Hommes aux semelles de vent poursuivent l'aventure de la présence française dans le Pacifique avec la déportation des communards en Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous donc à midi et bonne journée sur France Culture. Yeah.